Alors ce soir, imaginez qu'on est sur la route et que par exemple, on traverse le désert californien. Et forcément, on roule avec quoi ? La radio à fond.
Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine.
Running down a dream, à la poursuite d'un rêve qui ne se réalisera jamais, entraîné par un mystère qu'on ne pourra jamais éclaircir. La voix d'un musicien dont la voix ne nous quittera jamais, Tom Petty, auquel on consacre la soirée sur Inter. Tom Petty, vous l'avez sans doute appris, est mort à l'âge de 66 ans. C'était un musicien américain qui n'a jamais été statufié de son vivant comme un Bruce Springsteen. Il était bien trop modeste pour ça et peut-être qu'il lui manquait un certain charisme. charisme scénique, une certaine ampleur, que sais-je. Pour autant, sa générosité, sa simplicité jaillissante, sa façon de puiser au cœur des racines blues, soul, country et rock'n'roll, évidemment, de la musique américaine, de raconter de façon percutante et lapidaire les joies et les peines de l'homme ordinaire, ses révoltes aussi, tout cela l'apparentait à Springsteen. Un peu comme son grand ami Bob Dylan, celui qui lui a rendu le plus bel hommage d'ailleurs, Tom Petty avait une voix nasillarde, à l'accent un peu traînant, qui était ce qu'elle était, et qui vous touchait parce qu'elle était toujours vraie. Et depuis qu'il a, selon la légende, vu à l'âge de 10 ans Elvis en personne tourner un film dans sa ville natale en Floride, et que toujours selon la légende il a échangé son lance-pierre contre la collection de 45 tours d'un voisin, Tom Petty n'a jamais cessé de se consacrer corps et âme à la musique. Il a acquis sa première guitare dans un supermarché et s'est produit pour la première fois de sa vie en public, il avait 14 ans. Quelques années plus tard, sous l'influence des Beatles, avec des cheveux désormais longs, il animait son premier groupe professionnel. Tom Petty venait du cœur du pays sudiste, en l'occurrence une ville universitaire située au nord de la Floride et qui s'appelle Gainesville, une ville dont environ un quart de la population à ce moment-là était noire, ce qui a eu une influence certaine sur sa musique. Alors Tom Petty n'a pas fait trop d'études, il n'en voyait pas vraiment l'intérêt, puis de toute façon il était en conflit avec son père, un agent d'assurance, un homme plutôt violent, qui avait coutume, selon ses dires, de le frapper. Sans doute une des clés de la colère et de l'indignation qu'on sentait sourdre au fond de cet homme, toujours abrité derrière une élégance souriante de gentleman sudiste. Alors Tom Petty n'a pas eu beaucoup de chance à ses débuts. Mud Crutch, le groupe qu'il a fondé en 1970, où il était simplement bassiste avec son camarade Tom Lydon, c'était le frère du musicien des Eagles, Bernie Lydon, avait débuté très modestement. Il jouait des reprises country dans des restaurants de Gainesville et des villes alentours en Floride. Alors vite, Petty a compris que s'il restait là, il irait dans le mur. Alors, il a entraîné ses copains en Californie, à Los Angeles. Et là, il a signé un contrat avec Shelter, c'est une petite compagnie de disques qu'avait cofondée à Tulsa, dans l'Oklahoma, le musicien Leon Russell, et qui allait révéler dans ces années-là le grand guitariste J.J. Cale. Mud Crutch n'est arrivé à publier qu'un 45 tours, on l'écoutera d'ailleurs tout à l'heure, qui n'a eu strictement aucun écho. Alors en conséquence, le groupe a été lâché par Shelter, et Petty a décidé de rester à Los Angeles avec une partie de ses camarades, le guitariste, et quel guitariste, Mike Campbell, et le clavier Ben Mantench, pour créer un nouveau groupe, les Heartbreakers. Un groupe inspiré en partie par un style nouveau, qu'on appelait alors power pop, soit le retour à l'énergie d'un rock'n'roll simple et direct, qui se combinait aux mélodies joyeuses et carillonnantes inspirées des débuts des Beatles et des Birds. Un style qui avait été inspiré à Tom Petty par un jeune musicien de son âge, Dwight Twilley, un compagnon de ses débuts, un natif de Tulsa, la ville dont étaient justement originaires Russell et J.J. Cale. Mais Tom Petty n'était pas au bout de ses déboires, et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Voici un de ses plus grands succès, Mary Jane's Last Dance. C'est une chanson qu'il a renaclée, enregistrée, et que lui réclamait sa maison de disques pour compléter une compilation de ses plus grands succès. C'était en 1993. Alors Tom Petty a repêché une maquette ancienne d'un titre très proche du style de Bob Dylan, ou au rythme un peu chaloupé. C'est l'évocation assez désinvolte d'une aventure sans lendemain avec une fille de l'Indiana repartie sur les routes au petit matin. Et ça a été un de ses plus grands succès, Mary Jane's Last Dance, Tom Petty et les Heartbreakers en 93.
Baby, but I got to keep moving on.
Night Watchman, ce soir sur Inter, Tom Petty, une chanson au rythme très Nouvelle-Orléans, enregistrée donc par Tom Petty avec ses Heartbreakers en 1981 pour un album qui s'appelait Hard Promises. On est quelque part entre Bob Dylan et Randy Newman. Randy Newman pour le procédé utilisé dans les paroles de la chanson, puisque Tom Petty se glisse dans la peau d'un personnage qui n'est pas forcément sympathique à tout le monde, le vigile qui fait sa ronde de nuit, Night Watchman. Un gars qui écoute la radio la nuit, bon ça c'est plutôt sympa, il se balade avec un calibre 38, ça fait partie du métier, et il dit à une fille qui a le malheur de passer par là, c'est pas un métier pour moi, je suis fait pour mieux que ça, je pourrais être ce qu'il te faut. Brr, pas terrible. Alors je vais vous raconter les débuts de Tom Petty qui n'ont pas été simples. Après le fiasco de son premier groupe Mudcrutch en 75, il essaye de se relancer sous son propre nom cette fois, et il est soutenu par le directeur des disques Shelter, Danny Cordell, un anglais, dans un autre style plus contemporain. Mais son premier album qui sort sous le nom de Tom Petty and the Heartbreakers, sorti en 76, est un fiasco total aux États-Unis, 6500 exemplaires vendus. Aujourd'hui, on dira, bah, c'est pas si mal, mais enfin, à l'époque, si vous voulez, c'est comme en vendre 3. Et pourtant, Cordell, un anglais, comme je vous disais, qui avait lancé la carrière de Joe Cocker, y croit. Il envoie Tom Petty dans son pays, en Grande-Bretagne, pour faire la première partie d'un musicien qui s'appelle Nils Lofgren. Lofgren, c'était un compagnon de Neil Young, un guitariste qu'on essayait alors de lancer comme une star potentielle qui ne deviendrait jamais. Mais enfin, Lofgren s'est fait une sacrée réputation dans ces années-là, puisqu'il a rejoint quelques années plus tard le E Street Band de Bruce Springsteen. Bref, Tom Petty débarque en 77 à Londres. Le mouvement punk débute, oui, c'est vrai, mais enfin, parallèlement, là-bas, on apprécie encore un rock'n'roll simple et sans prétention, rétro, vintage, si vous voulez, de proximité, hein, comme on dirait aujourd'hui, hein, voilà, circuit court, qui fait danser et chanter les gens dans les pubs et qu'on appelle le pub rock, avec des groupes comme Dr. Feelgood ou Rockpile avec Dave Edmunds et Nick Lowe. C'est un des viviers du punk rock. Et on pardonne sans difficulté, au fond, ses cheveux un peu longs, même carrément longs, à Tom Petty. Pourquoi ? Bah, il a une drôle de tête, il n'a pas l'air trop bien dans sa peau, il y a un côté un peu grinçant dans ses chansons. Alors on l'assimile sans mal à ce mouvement rétro et moderne à la fois, et on le range même dans la new wave, hein, au sens premier anglophone du terme. Et c'est ainsi que le premier album de Tom Petty et de ses Heartbreakers se classe en 77 dans les meilleures ventes britanniques. Mais pour avoir du succès dans son pays, les États-Unis, Tom Petty va devoir encore attendre. Un exemple du style assez feutré entre blues et soul de Tom Petty à ses débuts, eh bien c'est dans ce titre, extrait de cet album dont je vous ai parlé, et la chanson s'appelle Breakdown.
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
Like That, Tom Petty et The Heartbreakers en 79, un titre qui cette année-là a été largement diffusé par les radios américaines, typique de ce style rhythm and blues énergique, un peu rétro, mais à l'énergie féroce qui était illustrée dans ces années-là par Bruce Springsteen, bien sûr, mais aussi par de grands chanteurs et compositeurs moins connus du grand public. Je pense à l'anglais Graham Parker, sorti du circuit du pub rock londonien dont je vous parlais tout à l'heure. Je pense aussi aux américains Garland Jeffries ou à ce musicien excellent de l'Indiana, John Hiatt. Cette chanson figure dans un album qui a été le premier de Tom Petty et de ses Heartbreakers à recevoir un disque de platine aux États-Unis qui s'appelait Damn the Torpedoes, hein, au diable les torpilles. Alors je vous parlais des déboires de Tom Petty, ils ont été importants durant cette période. Il avait signé à ses débuts un contrat d'édition musicale, c'est-à-dire ce qui couvre les royalties entraînées par la diffusion de ses chansons à la radio, en discothèque, etc., soit la source de revenus primordiale d'un compositeur de chansons. Or, Petty avait commis une erreur de jeunesse. Contre une avance annuelle de $10,000, il avait cédé l'intégralité, soit donc 100%, des royalties de ses chansons à son manager, sa maison disque, je sais pas, enfin quelqu'un d'autre. En clair, ses chansons ne lui appartenaient plus. Et malgré le grand succès de ses tubes aux États-Unis à partir de l'année 78, il s'est retrouvé en faillite personnelle. Il lui a fallu batailler pendant des années, jusqu'en 1981, année de parution de son quatrième album Hard Promises, pour récupérer seulement la moitié la propriété des chansons qu'il avait composées. En plus de ça, Tom Petty n'a jamais été avide d'argent. Quand en 79 son album Damn the Torpedoes est sorti, le service commercial de sa maison de disques souhaitait le vendre à près de $10, hein, $9,98 pour être exact, ce qui était, paraît-il, le tarif des albums de stars. Or, Tom Petty, il a dit non, moi je suis pas une star, moi je vais vous dire un truc, mon public il va pas l'acheter. Vendez-le à 8,98$, une différence de 1$, je peux vous dire, ça compte pour les gens qui achètent mes disques. Et il a eu raison, l'album Damn the Torpedoes a fini par se vendre à 3 millions d'exemplaires. Tout de suite, une chanson coécrite par Tom Petty avec son grand ami Bob Dylan, une chanson qui s'appelle Jam in Me, on pourrait dire, voilà, vous me saoulez, hein, une chanson qui s'adresse à tous ceux qui envahissent votre espace intime, vous savez, ceux qui vous appellent au téléphone pour des offres commerciales, ou encore ceux qui vous envahissent par le biais de vos écrans pour répéter les mêmes histoires, les mêmes sujets, montrer les mêmes têtes, refaire les mêmes blagues. Voilà, You're Jamming Me. Tom Petty and the Heartbreakers en 1987 sur Inter.
Her father's name is Mackintosh. Her mother's name.
une rareté, le premier enregistrement gravé par un groupe qui s'appelait Mudcrutch, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, où un jeune Tom Petty, 23 ans à l'époque, avait fait ses débuts. C'était en 75 et la chanson s'appelait Depot Street. Elle est sortie en 45 tours et avait fait un bide complet qui avait signé la fin du groupe. Alors ça vous a pas échappé, il s'agissait d'un reggae. Et aux États-Unis, c'était très en avance. Parce qu'en 75, aux États-Unis, le grand public n'avait jamais entendu de reggae et Bob Marley, qui était largement connu, voire célèbre en Europe, était là-bas un inconnu. En fait, c'est l'anglais Denny Cordell qui réalisait des enregistrements pour les disques Shelter à Tulsa, dans l'Oklahoma, je vous en ai parlé, qui avait fait découvrir le reggae à Tom Petty, puisque Cordell avait accompagné le découvreur historique de Bob Marley, l'anglo-jamaïcain Chris Blackwell, en Jamaïque. Et Blackwell venait de lancer une nouvelle étiquette, Mango, destinée à diffuser le reggae aux États-Unis. Et Petty avait fait une tentative plutôt réussie, avec le recul, pour enregistrer un reggae à sa façon, avec son groupe d'alors qui s'appelait donc Mudcrutch. Alors sinon, bien sûr, il a gravé tout au long de sa carrière des chansons rock'n'roll classique, toujours élégante dans leur simplicité parfaite. En voici une, pas tout à fait au hasard, hein, c'est une des meilleures. Elle s'appelle Think About Me, remonte à l'année 87. À un moment, le mystère, c'est de savoir, est-ce que ça va marcher? Oui, on me fait signe que oui. We'll be right back.
guitar. She was long and tall. She was the queen of them all.
Last Night, il n'y avait pas que la voix de Tom Petty dans cette chanson au rythme antillais, franchement ska aussi, mais aussi celle du grand chanteur texan Roy Orbison, et puis au cœur, si vous avez l'oreille fine, vous avez peut-être reconnu George Harrison et Bob Dylan, ainsi que l'autre anglais de la bande, Jeff Lynne, hein, de Electric Light Orchestra. Un groupe improbable, les Traveling Wilburys, a uni ces cinq hommes en 1988 pour une des grandes surprises de cette année-là. On n'avait pas entendu à l'époque Bob Dylan aussi en forme depuis longtemps, ni George Harrison d'ailleurs, qui chante avec un grand brio dans le premier album de ce groupe, une chanson qui est restée un classique, Handle With Care. C'est Jeff Lynne qui avait pris l'initiative de cette association complètement inattendue de vétérans dont Tom Petty était le benjamin. Les cinq hommes avaient composé ensemble tout un répertoire dans la cuisine de l'anglais Dave Stewart, hein, le cofondateur du duo Eurythmics, qui avait à ce moment-là une maison proche du studio appartenant à Bob Dylan, qui était situé près de la plage de Malibu, c'est-à-dire à l'ouest de Los Angeles. Je vous propose maintenant un blues au rythme très caractéristique, popularisé par Bo Diddley, un blues signé par Tom Petty avec Bob Dylan, une chanson d'ailleurs que Dylan a interprété lui-même en 1986 dans un de ses albums les moins connus, Knocked Out Loaded, mais ce soir sur Inter, bien c'est Tom Petty qui l'interprète.
Vertigo Trip sur France Inter.
Tonight, in case of day.